Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 18 octobre, ravi de vous retrouver. Nous sommes là comme chaque semaine, à la même heure, avec toujours le même plaisir, pour vous proposer un résumé de 7 jours d'actualité avec bien sûr la rédaction. Nous allons faire escale aux États-Unis, à Gaza, en Turquie par exemple. Nous partirons pour l'Afrique après le flash. Rendez-vous également avec vos messages. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler de la France aujourd'hui et du vote, de l'acte de voter à l'heure de l'abstentionnisme dans notre beau pays. Et d'une façon originale, avec notre invité Laurence Garcia, auteur de L'isoloir des illusions, une enquête publiée chez Michalon. Bonjour Laurence Garcia.
Bonjour Pierre.
C'est un plaisir de vous retrouver.
Et moi.
Les auditeurs les plus, j'allais pas dire les plus anciens, les plus fidèles de RFI se souviennent peut-être que vous étiez à RFI.
Ah bah ça a été ma maison, hein, et je reste encore fidèle.
Alors vous êtes journaliste, productrice aujourd'hui d'une émission, enfin vous avez fait beaucoup de choses sur France Inter, notre chaîne amie, la chaîne nationale, une émission sur les rêves.
Hein. Ça s'appelle Dans tes rêves, voilà, on fait parler à nos invités de leur rêves nocturnes et de leur scénarii, un autre cinéma intérieur.
Tous les samedis.
Tous soir. Les samedis soirs.
Nous, c'est le samedi
et
matin.
Ben voilà,
nous,
on a rendez-vous tout à l'heure.
Ouais, donc on est fait pour s'entendre. Et là, il y a ce livre que j'ai trouvé vraiment très original, très agréable à lire en plus. L'isoloir des illusions, un livre sur les premières fois.
La première fois qu'on glisse un bulletin dans l'urne en interviewant essentiellement des journalistes politiques, pas de politique, si vous ne voulez pas de politique, les fameux faiseurs et défaiseurs d'opinion, des artistes engagés, des écrivains, effectivement, que l'on ait eu...
Des journalistes,
que l'on ait eu 18 ans ou 21 ans, hein, à une certaine époque, l'âge de la majorité. Qu'est-ce qu'il reste de cette première fois comme une histoire d'amour dont on est peut-être déçu après ou pas.
Alors, ça arrive sur la formation d'une identité politique, en fait, hein, qui pousse à voter ou pas, d'ailleurs.
C'est ça. Ce qui m'intéressait, c'est pas pour qui vous votez la première fois, mais d'où votez-vous, selon quelle histoire familiale, parce que finalement, on est héritier aussi des valeurs de papa, de maman, et selon quel contexte historique que l'on ait eu 20 ans durant la guerre d'Algérie, ou 20 ans en mai 68 ici en France, quand ça a bougé, ou 20 ans aujourd'hui dans les années 2000.
Alors nous allons mettre, Laurence, en opposition aujourd'hui les soubresauts du monde, la quête de démocratie, d'indépendance et tout ce qui va avec, et le débat franco-français que vous évoquez dans ce livre sur le vote. Et il y a comme un désenchantement dans la démocratie paisible, finalement, malgré la crise, malgré le chômage, l'endettement qui est la nôtre. Un désenchantement.
Presque collectif à travers différentes générations, peut-être moins chez les anciens. Je pense par exemple à l'écrivaine Benoîte Groult qui a voté pour la première fois en 1945. Donc jusqu'alors, les femmes dans ce...
Il y avait une conquête.
Patrie des droits de l'homme. Chez les anciens, non. Je sens que la notion de droit de vote est encore là, le rêve révolutionnaire. Mais effectivement, c'est un désenchantement collectif qui t'a passé pour des enfants gâtés, de la démocratie.
Avant de revenir en France, Laurence, parlons de la propagation du virus Ebola. D'abord, beaucoup d'Africains disaient jusqu'ici que le monde entrerait vraiment en guerre contre ce fléau, que quand les Occidentaux seraient touchés, eh bien c'est fait. Aux États-Unis notamment, où une deuxième infirmière a été contaminée, annulant un voyage, Barack Obama a présidé une réunion de crise mercredi. Correspondance de Washington signée Jean-Louis Pourté.
Il était urgent pour Barack Obama de montrer qu'il avait le contrôle de la situation alors que les Américains commencent à sérieusement douter de la compétence de leurs services de santé. Devant tous ceux qui sont chargés de coordonner la réponse à l'épidémie d'Ebola, le président a donc promis que les États-Unis allaient répondre de manière plus agressive et il a demandé aux CDC, les centres de contrôle et de prévention des maladies, de mettre en place des équipes de réaction rapide capables d'intervenir immédiatement dès qu'un nouveau cas est signalé. Jouant les médecins en chef, Obama a rappelé que les risques d'infection étaient limités et, pour rassurer le public, il s'est cité en exemple.
J'ai serré la main, pris dans mes bras et embrassé, pas les médecins mais les infirmières, pour saluer le travail courageux qu'elles avaient accompli en s'occupant d'un patient. Elles ont suivi les protocoles, elles savaient ce qu'elles faisaient et je me suis senti complètement en sécurité.
Plus tôt dans la journée, Barack Obama s'était entretenu par vidéoconférence avec le président Hollande, les premiers ministres Renzi et Cameron, ainsi qu'avec la chancelière allemande Angela Merkel, pour leur demander de faire plus et d'encourager les autres pays à accroître leur aide. Le président américain ne cesse en effet de déplorer le manque d'implication d'une partie de la communauté internationale.
Il s'appelait Thomas Eric Duncan. Ce Libérien de 42 ans a été le premier malade d'Ebola diagnostiqué hors d'Afrique et le premier mort aux États-Unis. On vous en a parlé, c'était le 8 octobre dernier. Il vivait à Monrovia dans le quartier Communauté 72. 8 autres personnes vivent toujours dans l'habitation et subissent désormais 3 semaines de quarantaine. Notre envoyé spécial Sébastien Nemeth les a rencontrés mercredi.
Un enfant coupe de l'herbe derrière la maison où vivait Thomas Eric Duncan. Il n'a pas le droit d'aller plus loin. Tous les résidents sont confinés 24 heures sur 24, comme Arine.
Une voisine est morte d'Ebola. Les services sont venus ramasser son corps et ils m'ont dit que Thomas était malade aux États-Unis. J'ai eu un choc. Je n'ai pas dormi pendant une semaine. La peur me tenait éveillée. On reste là, assis, toute la journée, à attendre le lendemain. Mes proches ne viennent jamais, je me sens rejetée, ils ont tous peur. Je pense à la maladie tous les jours et je prie pour ne pas avoir les symptômes. Le jour où ma quarantaine sera finie, je serai heureuse et j'irai à l'église pour remercier Dieu.
Pour manger, le gouvernement leur a livré du riz. Pour l'eau, ils font appel à des volontaires du quartier, chargés aussi de les surveiller. Peter est également coincé chez lui. Il prend son mal en patience.
C'est difficile. J'étais taxi, donc je n'ai plus de travail. Je passe mon temps à dormir et manger. Mais je sais que la quarantaine est nécessaire pour notre bien et celui des autres.
Et nous reparlerons d'Ebola dans la seconde partie de notre rendez-vous. Une semaine d'actualité donc, une émission à écouter aussi et à podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr. Destination Gaza avant de revenir en France avec vous, Laurence Garcia. Gaza qui a reçu la visite cette semaine du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, marqué par ce qu'il a vu. Correspondance lundi de Muriel Paradon.
Dès son arrivée à Gaza, Ban Ki-moon a traversé le quartier de Shejaïa, l'un des plus ravagés par la guerre. Il a ensuite rencontré des blessés au sein des écoles de l'ONU qui accueillent encore des déplacés. « Rien ne pouvait me préparer à ce que j'ai vu aujourd'hui », a-t-il déclaré. C'est indescriptible. Le secrétaire général des Nations Unies, visiblement ému, est venu apporter un message d'espoir aux Gazaouis. La communauté internationale est à vos côtés. La conférence des donateurs de dimanche a promis 5,4 milliards de dollars pour Gaza. Et Ban Ki-moon a annoncé que le premier camion rempli de matériaux de construction arrivait dans le territoire palestinien ce mardi. C'était une demande forte des Gazaouis et un objet de litige, les Israéliens exigeant un contrôle strict pour laisser passer ces matériaux afin qu'ils ne servent pas à rebâtir les tunnels du Hamas. Le secrétaire général de l'ONU a enfin appelé Israéliens et Palestiniens à reprendre les négociations de paix pour éviter un nouveau cycle de violence.
Une semaine d'actualité.
Et une émission tout en opposition cette semaine entre les affaires du monde et la méfiance des Français à l'égard du vote du suffrage universel. Et quand je dis méfiance, le mot est parfois très faible. Nous sommes toujours en compagnie de Laurence Garcia, auteur de L'isoloir des illusions. Le titre d'ailleurs en dit long.
Ah bah une liaison près, on entend des illusions ou des désillusions. Oui, on jouait un peu sur ce jeu de mots-là.
Vous avez rencontré combien de personnes pour faire ce livre ?
Au total une cinquantaine, j'en ai gardé une trentaine.
Qui vous ont confié, en fait, presque des secrets.
Hein, sur, secrets de famille. Il n'y a pas trop de tabou à raconter son premier isoloir, parce que finalement...
Il y en a moins aujourd'hui qu'avant.
C'est ça, c'est beaucoup plus décomplexé. Puis en plus, le premier isoloir ne ressemble pas forcément à ceux qui vont suivre. Hein. On reste pas forcément... on peut changer de couleur politique en vieillissant aussi. Il y a le fameux proverbe où on dit qu'on est révolutionnaire à 20 ans et conservateur à 60 ans.
Ce qui n'est pas toujours vrai,
non,
d'ailleurs.
Non, non, non. Ça peut être l'inverse. Évidemment, par exemple, je ne voulais pas interviewer de politique, mais exception... faite avec Alain Krivine et Arlette Laguiller, pour ceux qui les connaissent, qui ont d'ailleurs été candidats à la présidentielle les uns et les autres dans les années 70, des anciens trotskistes à la retraite, mais eux n'ont pas changé. Ils rêvent encore d'un grand soir de la Révolution.
Les irréductibles.
Voilà, et de l'utilité du vote.
Alors vous avez aussi rencontré parmi tous ces personnalités connues, en général, Jean-Marie Colombani, l'ancien journaliste, l'ancien patron du Monde, qui s'alarme, lui, quand même, il dit qu'il faut absolument préserver l'idéal démocratique.
Oui, ce qui est intéressant aussi avec Colombani, c'est parce que ce qui m'intéresse, c'est d'où vote-t-on, d'où vient-on. Oui. Lui, il est né à Dakar. Hein, il a passé toute son enfance en Nouvelle-Calédonie aussi. Donc
les Corses en plus.
Donc il a toute une vision aussi assez insulaire, dit-il. Mm-hmm. Donc pas forcément franco-française. Et oui, lui, il est très, il se dit réformiste. Il se méfie de toutes les révolutions et il pense qu'on est dans une bascule de l'histoire, une bascule mondiale et qu'avant tout, par le vote aussi, il y a péril dans la demeure de la démocratie mondiale.
Alors parmi les invités de votre livre, en quelque sorte, mm-hmm. Laurence Garcia, il y a aussi Edoui Plenel, le fameux, connu, presque vedette, patron de Mediapart, qui, enfin pour lui, il n'y a pas de sacralité du vote.
Non, lui considère que la République est en mouvement et pour cela, il se dit héritier de la pensée de son père, qui était un haut fonctionnaire à Fort-de-France. Mm-hmm. Donc lui, il a passé aussi toute son enfance dans les Caraïbes, et un père qui a su dire non. Non à la France colonialiste à la fin des années 50, début 60, alors qu'il était lui-même grand fonctionnaire. Il a servi cette République et il l'a payé cher, hein, puisqu'il a été éjecté de son poste. Mm-hmm. Donc voilà, il considère que la République française, il a fallu parfois lui rajouter des mots social-démocrate. Voilà, c'est une République qui est en mouvement, qui n'est pas idéale, qui est à réinventer aussi.
Sept jours dans le monde.
Laurence Garcia, partons pour Kobané maintenant, la troisième ville kurde de Syrie à la frontière turque où les djihadistes de l'organisation État islamique et les Kurdes se battent pour le contrôle de la cité. Écoutez par exemple ce reportage sur les réfugiés de notre envoyé spécial à la frontière, donc Daniel Valo, jeudi.
Cela fait trois semaines qu'ils ont fui Kobané. Chaque jour, ou presque, ces réfugiés kurdes de Syrie téléphonent à leurs proches restés de l'autre côté de la frontière. Et hier, pour la première fois depuis le début de l'offensive djihadiste, les nouvelles étaient encourageantes.
Il y a encore quelques jours, la situation était très difficile. Mais depuis mardi, on dirait que ça s'arrange, que ça va mieux pour nos combattants. À présent, les djihadistes sont affaiblis, ils sont sur la défensive. Et ils ont besoin de faire venir des renforts.
Aux yeux des réfugiés de Kobané, les bombardements de la coalition anti-djihadiste ont joué un rôle crucial ces derniers jours. En outre, les combattants kurdes ont été capables, disent-ils, d'adapter leur stratégie face à leur adversaire.
Maintenant, le combat se fait dans les rues de Kobané. Avant, les djihadistes pouvaient nous attaquer avec leurs blindés et leur artillerie lourde. Mais maintenant, ça n'est plus possible. Nos combattants ont fait exprès de les attirer dans certains quartiers pour les piéger et pour en tuer le plus possible.
Depuis deux jours, les réfugiés de Kobané reprennent espoir. Un espoir bien mince, il est vrai, car même si les combattants kurdes réussissent à repousser l'État islamique à l'extérieur de la ville, il leur sera très difficile de briser l'encerclement qui les prive des armes et des renforts dont ils ont cruellement besoin.
À force de parler de Kobané, de l'organisation de l'État islamique en Syrie, on en oublie l'Irak, menacé aussi par ces djihadistes. Sabi Boukhalifa a fait un point mardi.
À Al-Anbar, les combattants de l'État islamique circulent en toute liberté. Ils contrôlent plusieurs villes de cette province et ne semblent inquiétés ni par les bombardements américains, ni par les troupes irakiennes. Dans cette région, les djihadistes sont durablement installés et progressent même en lançant régulièrement des offensives contre une armée irakienne totalement déstabilisée. À Bagdad, le constat est amer. Les combattants de l'organisation État islamique maîtrisent mieux le terrain que les forces gouvernementales, pourtant appuyées par des frappes aériennes américaines. Deux mois après avoir lancé ses raids contre les terroristes de l'État islamique, les États-Unis assistent toujours à la déroute de l'armée irakienne. Aucun progrès n'est enregistré sur le terrain. À Washington, les responsables le reconnaissent. La bataille est rude, mais hors de question de déployer les 1400 militaires US présents dans ce pays. C'est aux Irakiens eux-mêmes de se battre pour se sortir de cette situation, affirme le porte-parole du Pentagone.
Le yézidisme est une religion monothéiste qui puise une partie de ses croyances dans le zoroastrisme, la religion de la Perse antique. Les fidèles de cette religion croient en un dieu unique, leur dieu. Eh bien, les femmes yézidis capturées par l'organisation de l'État islamique en Irak après la chute de la ville bastion de ces yézidis, Sinjar, en août dernier, ces femmes sont devenues des esclaves. Vous avez bien entendu, des esclaves. David Thompson.
Dans la quatrième édition de Dabiq, le magazine du groupe État islamique sorti hier et diffusé sur Internet en anglais et en français, l'organisation djihadiste justifie au nom de son interprétation de la religion la mise en esclavage des femmes yézidis capturées en Irak. Selon ce texte, les chrétiennes et les juives échappent à ce sort à condition qu'elles payent un impôt appelé la jizya. Plusieurs combattants de l'organisation djihadiste contactés par RFI ont confirmé qu'après la chute de Mossoul en juin, des femmes de cette confession yézidi ont été vendues par l'EI entre 1500 et 2000 dollars à des djihadistes. Certaines ont été ramenées en Syrie par des combattants qui en ont fait leur femme, car l'État islamique autorise le mariage de ces esclaves à condition qu'elles se convertissent à l'islam. Ces femmes ne sont pas des esclaves sexuels, se justifie un combattant étranger de l'EI à RFI. Ce sont des esclaves tout court, dit-il. Des esclaves, précise-t-il, avec lesquels leurs maîtres peuvent avoir des rapports sexuels. Elles sont achetées pour les tâches ménagères, elles s'occupent de la maison, poursuit ce djihadiste. Difficile d'évaluer leur nombre exact, mais un autre djihadiste étranger explique à RFI que certaines de ces femmes ont préféré se suicider plutôt que de vivre en esclave.
Pour parler d'autre chose, je suis sûr que vous étiez inquiète, Laurence Garcia, après la disparition du leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un, six semaines durant. Nous en parlions la semaine dernière avec notre invité, Yann Mas. Eh bien, rassurez-vous, il a réapparu cette semaine.
Une semaine d'actualité.
Merci de votre fidélité. Nous sommes en compagnie de Laurence Garcia, auteur d'une enquête qui s'intitule « L'isoloir des illusions ». Vous voyez, Laurence, la semaine est faite d'une campagne électorale au Brésil aussi, le vote. Les Suisses voteront demain pour la création d'une caisse maladie, le vote. Et on a connu l'enthousiasme des Écossais pour le vote. Les habitants de la Catalogne, les Catalans sont en colère, au contraire, parce qu'eux ne pourront pas voter. Donc on se précipite un petit peu partout dans le monde pour voter, et en France, on fait, comme on dit familièrement, la fine gueule.
Oui, mais ce qui est paradoxal, c'est qu'en France, on se passionne pour la politique. On défile dans les rues aussi, on se crêpe le chignon. Beaucoup vont voter, hein. Attention, il y a des partis qui, et des tendances politiques qui sont présentes aux urnes et d'autres moins. Alors, certains s'interrogent quand même aussi sur la notion de pourquoi pas rendre le vote obligatoire comme dans d'autres pays européens aussi.
Alors, parmi les personnalités que vous avez interrogées, il y a un sondeur, Jean-Marc Lèche. Oui. Alors lui, qui est très cynique, hein. Alors lui, il a arrêté de voter il y a 30 ans.
C'est ça.
Et en tant que sondeur, il dit qu'on peut, en gros, vendre, publicitaire presque, vendre un homme politique comme une savonnette.
Oui, c'est ça. Bah, il est patron d'Ipsos, qui est la grande mec des sondages politiques, hein. Ce sont ces personnages-là qui viennent justement le soir des les soirées électorales commenter les chiffres, etc. Oui, cynique en disant pour nous sommes des hommes de chiffres, donc les sondages qui d'ailleurs obsèdent tant nos candidats à la présidentielle ou autre, ça vaut aussi bien ces chiffres-là pour Coca-Cola, le pape ou le président, c'est pareil.
Et les sondages finissent par devenir le vote presque.
C'est ça, la tyrannie du sondage. Donc lui, voilà, il a trouvé la solution. Il dit voilà, moi les hommes de droite comme les hommes de gauche sont mes clients, parce qu'il parle Ipsos, on a le droit de travailler pour la concurrence. Donc j'ai décidé de ne plus trahir ni l'un ni l'autre. Donc je ne vote plus et je m'en sens pas plus mal.
Et Benoît de Groot, que vous avez déjà cité tout à l'heure, oui. Laurence, a une très belle phrase. Elle dit « Il faut du temps pour oser être libre » et donc pour voter notamment. Il faut du temps pour oser être libre.
Moi, je voulais ouvrir avec elle. C'est la doyenne des témoignages. Elle a 80, presque 15 ans maintenant. Elle a été, fait partie de ces femmes françaises qui ont pu voter la première fois seulement en 1945. Elle avait déjà 25 ans. Donc il y avait de la rage et de la colère. Jusqu'alors, elle disait « Moi, voilà, j'étais la fille de mon père ou la femme de mon mari, et donc oui, elle ne décolère pas. Elle est devenue féministe aussi sur le tard, et ce qui est drôle, c'est que c'est un peu grâce à De Gaulle et à l'ordonnance d'Alger qu'elle a pu voter comme toutes les femmes françaises, mais non, elle, pour son premier vote, elle voulait pas voter De Gaulle, elle a voté pour le parti des fusillés, pour les communistes, justement, contre un peu les opinions de ses propres parents, vous voyez, donc il y a plein de colères mêlées comme ça, mais oui, cette génération-là a conscience de l'importance de ce bulletin.
Alors, votre livre est divisé en plusieurs parties, une sorte de classification des motivations de vote, en quelque sorte. Hein, l'héritage familial, contre quelque chose, en l'occurrence, par exemple, la guerre d'Algérie, on en parlera dans une minute.
Tout à fait. Minutes, hein. Par génération et par histoire. Forcément, on ouvre avec la génération des enfants de la guerre, et puis il y a toute la génération des enfants de la colère, et notamment la colère face à la guerre d'Algérie.
Laurence Garcia, nous allons marquer une pause pour écouter quelques nouvelles du monde avec son lot de catastrophes et de scrutins. Par exemple, je vois les manifestations à Hong Kong pour plus de démocratie. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Merci pour toutes ces informations. Retour à notre revue de 7 jours d'événements avec la rédaction.
Une semaine d'actualité.
Elle s'appelle Laurence Garcia, elle est journaliste, productrice à France Inter. Elle vient d'écrire « L'isoloir des illusions », un livre publié chez Michalon. Dans quelques minutes, nous partirons pour l'Afrique et rendez-vous également avec vos messages. Laurence est notre invitée aujourd'hui. Et parlons de la France, avec d'abord la préparation du budget de 2015 qui a été transmis à Bruxelles pour examen. C'est nouveau, correspondance mercredi de Quentin Dickinson.
Avec la transmission à la Commission européenne dans le courant de cette journée du projet de budget 2015 de la France, commence un processus complexe qui n'aboutira que vers la fin du mois de décembre. Les chiffres de ce projet seront analysés dans le détail dans deux enceintes parallèles. D'une part, les techniciens de Bercy s'apprêtent à négocier en continu avec leurs homologues de la Direction générale des affaires économiques et monétaires de la Commission européenne. Et d'autre part, le débat budgétaire est lancé au Parlement français. Ces deux pôles s'alimenteront l'un l'autre en idées. Les experts français et de la Commission européenne estimeront par quels moyens on pourrait accorder davantage de flexibilité à la France pour juguler son déficit courant et sa dette cumulée, et les élus français, voire le gouvernement lui-même, ne seront certainement pas à court d'amendements. Contrairement à certaines craintes exprimées à Paris, le changement de commissaire européen responsable du secteur, avec en l'occurrence l'arrivée début novembre du français Pierre Moscovici, n'est a priori de nature ni à favoriser ni à desservir les intérêts de la France dans cette négociation.
Nous parlions samedi dernier du prix Nobel de littérature attribué à l'écrivain français Patrick Modiano. Il nous faut reparler aujourd'hui du prix Nobel d'économie attribué à un autre français, Jean Tirole, Altine Lazage.
Le comité Nobel l'a présenté comme l'un des économistes les plus influents de notre époque. Jean Tirole, 61 ans, est mondialement reconnu pour ses multiples études, surtout sur le fonctionnement des marchés et de la régulation. Son analyse propose des solutions aux pouvoirs publics pour corriger les dérives individualistes et donc spéculatives de certains acteurs économiques. Afin de rationaliser les bourses, il est partisan de redonner le pouvoir aux politiques sur les marchés. Jean Tirole est le troisième Français récompensé par le prix Nobel d'économie après Gérard Debré en 1983 et Maurice Allais en 1988. Né à Troyes, dans l'est de la France, d'un père médecin et d'une mère enseignante en lettres, il se dirige d'abord vers les mathématiques, intègre ensuite l'école polytechnique et découvre l'économie à 21 ans. Ingénieur des ponts et chaussées, Jean Tirole traverse l'Atlantique pour faire son doctorat d'économie aux États-Unis, au Massachusetts Institute of Technology. Il arrive à Toulouse en 1991 et est l'un des fondateurs de l'Institut d'économie industrielle, le berceau de ce qu'on appelle aujourd'hui l'école de Toulouse en économie. Il a reçu la médaille d'or du Conseil national de la recherche scientifique en 2007.
7 jours en France.
Donc on est là aujourd'hui, on est mobilisé pour se faire entendre. On crée un peu de bouchons, c'est vrai, mais on casse rien. On est des gens civilisés.
D'ailleurs, les voitures, vous pouvez le constater, elles passent aisément. Donc on n'est pas là pour semer la pagaille. Hein, on est là seulement pour défendre nos droits.
Ségolène Royal, la ministre de l'écologie et des transports, qui, on le sait, a renoncé à l'écotaxe sous la pression des routiers, on vient d'en entendre quelques-uns, a proposé au début de la semaine une baisse du prix des péages autoroutiers, voire une gratuité le week-end. La réponse du Premier ministre n'a pas tardé, pas question. Écoutez la réaction de Ségolène Royal.
J'ai le droit, en tant que ministre chargée des transports, de mettre des idées sur la table. J'ai mis des idées sur la table, voilà, et j'ai ma liberté de parole. On sait que les prix des autoroutes sont trop élevés. En tout cas, c'est ce que dit la Cour des comptes. Donc, on va confronter les points de vue. Et j'ai dit, soit il y a une baisse des prix des autoroutes pour les ramener au juste niveau, soit il y a des systèmes de passage qui peuvent être gratuits. Alors, ça a beaucoup surpris. Mais à partir du moment où il y a une situation de rente, et bien à ce moment-là, on trouve des solutions. Et en toute transparence, il n'y a pas lieu ni de s'énerver, ni de vociférer, ni de faire des polémiques, ni d'hurler à la ruine des sociétés d'autoroutes, à la ruine des entreprises. Non.
Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Laurence Garcia. Là, nous ne faisons pas le grand écart puisque nous sommes en France. Donc, on va s'attarder un petit peu sur notre pays. Vous avez dans cette galerie de portraits, en quelque sorte, de gens qui vous racontent leur première fois, leur première vote et les influences qu'ils ont eues, subies pour voter. Il y a parmi donc ces invités deux journalistes très connus en France, Alain Duhamel et Franz-Olivier Gisbert. Alain Duhamel est un cas particulier parce qu'il a passé sa vie à scruter la politique et il en est quasiment dégoûté aujourd'hui.
Oui, oui, Alain Duhamel, d'ailleurs, il me disait que pour 2017, ce serait sa, s'il est toujours là, ce serait sa 10e présidentielle.
Pas mal.
C'est quand même lui aussi qui a importé à la télé française les fameux duels présidentiels qui existaient aux États-Unis, mais pas encore en France. Et je crois que la première, c'était en 1974 et c'était entre les candidats Giscard et Mitterrand. À l'époque, c'était à l'ORTF. Oui, mais là, c'était les premiers débats présidentiels entre les deux candidats. Et à l'époque, les chaînes flippaient énormément par rapport à ça. En même temps, les journalistes n'avaient pas beaucoup de questions à poser à tous ces politiques qui n'étaient pas aussi coachés qu'aujourd'hui. Oui, lui, il est complètement désabusé. Il dit,
il a une phrase cinglante.
Le débat s'est abaissé, les personnages ont rapetissé et les populismes ont progressé.
Tout est dit presque.
Oui, et je pense qu'il n'a pas forcément tort, même d'un point de vue européen. Et ce sont quand même des observateurs de la politique depuis un certain temps.
Franz-Olivier Gisbert.
Autre cas particulier, donc il a été longtemps le patron du Point. C'est un homme aussi qui est là depuis pratiquement un demi-siècle dans le médiatique.
Qu'on voit de temps en temps à la télévision.
Qu'on voit beaucoup parce qu'il écrit aussi des livres. Alors lui, il se dit à voile et à vapeur en politique. Lui,
il précise en politique.
En politique, il précise bien. Il peut voter un coup à gauche, un coup à droite, selon la tête du client. Il explique aussi par le fait qu'il est né américain, il a une culture franco-américaine, et dans la culture anglo-saxonne, on n'est pas forcément fidèle à un sauveur. Je crois qu'il ne croit pas en la notion de sauveur. Donc,
d'homme providentiel.
D'homme providentiel, et puis de toute façon, ce sont des traversées du siècle, ces histoires de premier isoloir et des traversées de notre propre temps. Donc c'est sûr aussi que quand on a 20 ans, on ne croit pas forcément au même personnage que quand on en a 40, 50 ou plus.
Mais il cite sa maman, Laurence, qui dit, quand les hommes politiques sont bons, ils ne sont jamais élus.
Voilà, ça serait. Et sa maman qui est rocardienne d'ailleurs.
Oui. Alors oui, ça s'y explique cela. Alors,
peut-être.
J'imagine. Vous avez, je suppose, pris un grand plaisir à faire ce livre qui paraît là aujourd'hui. Et il ne vous a pas découragé ce livre finalement.
Écoutez, moi je voulais pas mettre de leçons de morale. C'est pas le but. Effectivement, on est dans un contexte ici où on se dit tous pourris, les votes de colère, les bulletins de colère.
Vous le rappelez d'ailleurs, ça a commencé par la Révolution et les révolutions. Ont permis aux Français de voter et aujourd'hui c'est tous pourris, on reste chez soi.
C'est ça. Et on parle éventuellement d'une désaffection politique des plus jeunes. Ça, moi, j'y crois pas forcément. Alors, on parle des jeunes intermittents du vote qui se trimballent tout l'héritage de papa et maman. On sait qu'on est dans une confusion des valeurs gauche-droite. Moi, justement, ce qui m'intéressait, c'était d'éclater cette famille qui maintenant est dépassée, on sent bien, gauche-droite, pour faire apparaître des familles, des familles bien plus complexes. Donc, désenchantée par rapport à tous ces gens désenchantés. Non, parce qu'en même temps, je trouve qu'il y a beaucoup de passion. Donc,
Comme si l'engagement politique avait pris une autre forme. Vous le disiez un petit peu tout à l'heure, Laurence, on manifeste beaucoup, on signe des pétitions, on s'engage sur Internet, que sais-je. Mais le vote en tant que tel, lui, est remis en question. Parce que le choix ne satisfait de moins en moins.
Je ne suis pas sûre que ce soit complètement le vote, c'est aussi pour qui on vote. Et je crois que c'était l'écrivain Pascal Bruckner aussi qui dit qu'on a un gros problème aussi, nous, ici en France, c'est qu'on coopte toujours les mêmes. Les élites se cooptent entre elles. Et depuis un demi-siècle, on voit toujours les mêmes, ceux qui accompagnaient déjà nos parents, peut-être même nos grands-parents. Donc le problème, c'est le renouvellement aussi des élites. Et peut-être qu'à ce moment-là, les urnes se rempliront aussi davantage. Alors est-ce que cette politique-là reste le monopole des politiques professionnelles? On a vu qu'il y avait pas mal de mouvements citoyens qui s'étaient montés, notamment dans ce livre, il y a les témoignages de Bruno Gassiot qui fait partie de ces gens qui ont monté le Parti Nouvelle Donne aux européennes, même si ça n'a pas donné grand-chose. Ces mouvements de citoyens. Il y a l'écrivain Alexandre Jardin qui a monté son mouvement Les Zèbres, contre tous les caméléons de la politique. Donc voilà, il y a des appels d'air, il y a d'autres alternatives et peut-être qu'à ce moment-là, ça attirera aussi notamment plus de jeunes électeurs.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons partir, Laurence Garcia, pour l'Afrique, un continent que vous aimez, je le sais, pour parler, hélas, d'abord d'Ebola. Le virus a tué à ce jour plus de 4400 personnes et le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est alarmé. Correspondance de New York, signée Karim Lebourg, mercredi.
L'épidémie d'Ebola n'est pas encore sous contrôle, c'est le message lancé par le Conseil de sécurité. L'ONU anticipe même une forte augmentation de l'épidémie, jusqu'à 10 000 nouveaux cas par semaine à partir du mois de décembre. Malgré la mobilisation, les efforts qui ont été faits ne suffisent pas. Ebola va plus vite que nous, a reconnu Anthony Bamburi, le chef de la mission de l'ONU contre Ebola. Si l'épidémie n'est pas stoppée, nous serons, dit-il, face à une situation sans précédent pour laquelle nous ne sommes pas préparés. L'ONU réclame des moyens supplémentaires, des véhicules, des laboratoires, des lits, au moins 7000 de plus, et surtout du personnel médical qui fait cruellement défaut. Les diplomates reconnaissent que beaucoup de pays hésitent à envoyer du personnel. Ebola fait peur. Ces pays craignent de voir revenir chez eux des infirmières ou des médecins infectés par Ebola, comme cela est déjà le cas aux États-Unis, en Espagne ou en France.
Suite d'une semaine en Afrique, en Côte d'Ivoire cette fois, c'est officiel, Simone Gbagbo comparaîtra à partir du 22 octobre prochain devant la cour d'assises d'Abidjan pour atteinte à la sûreté de l'État. Envoyé spécial Frédéric Gara, mercredi.
Ils sont près de 90 cités à comparaître devant la cour d'assises de Côte d'Ivoire à partir de mercredi prochain. 90, parmi lesquels des chefs de file de l'opposition actuelle, comme Pascal Affine-Guessan pour le FPI ou Daniel Bony-Clavry pour l'AFD, l'ancien chef de la garde républicaine, le général Bruno Dogboblé, ou encore l'ex-premier ministre Gilbert Akenbo. Attendus aussi les plus proches, les plus intimes de l'ex-président Gbagbo, Michel, son fils, et Simone, son épouse. Selon une source proche de la Défense, jour après jour, chacun devrait comparaître seul devant ses juges pour répondre des chefs d'accusation d'atteinte à la sûreté de l'État, certains pour corruption, organisation en bande armée, d'autres pour xénophobie ou encore usurpation de titres. C'est dans un deuxième temps que les accusations pour crimes de sang, accusations pour génocide pourraient être constituées, sitôt les dossiers d'instruction bouclés, puisque deux procédures sont encore en cours. Reste que durant les deux ou trois mois que devrait durer ce procès, tous les regards seront tournés vers Simone Gbagbo, dont on ne connaît pas encore le jour de la comparution. Simone Gbagbo, la plus célèbre prisonnière de Dieinné, dont l'un de ses avocats dit qu'elle est sereine face aux audiences qui s'annoncent. Elle est déjà exaucée, affirme son défenseur, puisqu'elle n'avait qu'un souhait, être jugée dans son pays.
Notez aussi que les autorités congolaises ont déclaré persona non grata le chef du bureau des droits de l'homme de l'ONU en République démocratique du Congo. Kinshasa reproche aux responsables onusiens un rapport dénonçant des crimes commis par des policiers congolais lors d'une grande opération anti-banditisme, l'opération Likofi. D'autre part, c'est une attaque particulièrement sanglante qui a secoué la ville de Beni jeudi dans le nord-est du pays, donc de la RDC. Selon la société civile, 30 personnes ont été tuées, la plupart à coups de machette, et 9 blessées dans une attaque attribuée à la rébellion ougandaise des ADF qui opère dans la région. Suite d'une semaine d'actualité en Algérie, cette fois avec des manifestations jamais vues jusqu'ici, celles de policiers à Gardaïa, mais aussi à Alger et d'autres villes du pays, correspondant jeudi de Leïla Berato.
C'est une manifestation qui interpelle. Elle est surprenante d'abord parce que les policiers du pays n'ont jamais manifesté, mais elle s'explique par le contexte social du pays. Ces forces de maintien de l'ordre sont en effet les premières confrontées à la violence. Émeutes dans les stades, émeutes du logement, affrontements entre bandes à coups de sabre dans certaines cités des grandes villes du pays. Face à cette violence, ils ont, comme la plupart des Algériens, des conditions de travail compliquées, des salaires qui résistent mal à l'augmentation du coût de la vie. Mais ces manifestations qui rassemblent des centaines de policiers dans tout le pays ont lieu au moment où deux clans s'affrontent pour la succession à la tête du pays. Abdelaziz Bouteflika, le président, est malade. De nombreux observateurs se demandent qui manipule qui, car au-delà des revendications sociales, ces policiers ont une revendication politique, le départ du chef de la police. Or Abdelrani Hamel est un proche d'Abdelaziz Bouteflika.
Pour réagir à l'actualité, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez évidemment à nous écrire. Salut à quelques auditeurs qui nous ont écrit à la page Une semaine d'actu de Facebook. Par exemple à Mouhamadoul, à Rufisque au Sénégal. Bonjour à André Julien à Vincennes, près de Paris. À Mohamedou à Niamey, à Aboubacar à Abidjan. Je voudrais aussi saluer Mohamed Al-Mustapha et Bakari à Bamako. Ça vous épate, Laurence Garcia. Mokhtar à Richard Toll au Sénégal. Et Harry Johanna à Antananarivo.
Sept jours en Afrique.
Et avant de vous retrouver, Laurence Garcia, suite d'une semaine d'actualité en Afrique, au Mali, où l'audit sur l'achat de l'avion présidentiel et d'équipements militaires crée des remous. Je vous rappelle que ces documents parlent de surfacturation d'environ 40 milliards de CFA. Correspondance mardi de Serge Daniel.
Près de 40 milliards de francs CFA de surfacturation décelée sur des achats d'équipements militaires, la colère gronde. L'homme de la rue, la presse, des membres de la société civile réclament justice. Mohamed Issouf Bachili, du collectif pour la défense de la République.
Il y a vraiment eu magouille.
Il y en a eu beaucoup, il y en a eu beaucoup. C'est pourquoi nous avons demandé la démission des deux ministres et que tous ceux qui, de l'un ou de près, qui seront relevés par la suite de leur rapport, qui soient transmis à la justice et que les sanctions s'en suivent pour que plus jamais la République puisse être au-dessus de tous.
La justice dépeine pour les coupables, mais il faut aller loin, estime de son côté Madame Traoré Koumbaba, présidente de Initiative de changement au Mali et en Afrique, un observatoire de bonne gouvernance.
L'emprisonnement dans ce cas-là ne va pas suffire, parce que nos pays sont des pays pauvres. Nous voulons réparation, que l'argent volé soit remis à sa place. Et aussi, c'est l'image de notre pays. On peut aussi réparer l'image de ce pays-là. On voudrait que ça soit fait.
Sur ce dossier, la réaction du président malien Ibeka est fortement attendue.
Dans le même ordre d'idées, partons maintenant pour Dakar où se tient le 7e forum social africain. Plus de 70 organisations y sont représentées. Correspondance jeudi de Karine Franck.
Un autre monde est possible, ils veulent y croire les altermondialistes, car ce monde-là ne tourne pas rond. Bouba Diop, membre du comité africain du Forum social.
Moi qui vous parle, ça fait 20 ans, je n'ai pas le petit bout de papier prouvant que la maison que j'habite, ça m'appartient. Pourquoi ? Parce qu'il y a une corruption généralisée dans tous ces systèmes. Le problème des coupures de courant, c'est les mêmes problèmes partout sur le continent. Spéculation, fraude, et surtout maintenant... cerise sur le gâteau, c'est des chefs d'État à vie. C'est pas possible.
Le monde de la finance ne pense qu'à ses finances, regrette l'écologiste Haïdar El Ali, ancien ministre sénégalais de l'Environnement.
Le dollar ne se mange pas, il permet d'acheter, il permet d'échanger. Ce monde de la finance, il est virtuel, il faut refuser qu'il domine le monde. Et aujourd'hui, malheureusement, il domine le monde.
Parmi les manifestants, Abdoulaye Seck, un jeune syndicaliste, venu dire non à l'injustice.
Une minorité qui accapare les terres au détriment de la majorité, ça c'est une injustice. Le népotisme, le favoritisme, tout ça c'est de l'injustice sociale. Maintenant, nous sommes là pour parler aux dirigeants de tous les pays africains, afin que justice soit faite, afin que tout soit équitable.
Et c'est possible ?
Bon, c'est pas possible, mais on fait notre mieux. Nous sommes là pour essayer de faire l'équilibre, d'équilibrer un peu.
À souligner aussi dans l'actualité le retour au pays, Madagascar, après 6 ans d'exil en Afrique du Sud de l'ancien président Marc Rabalomanane, qui a été placé immédiatement en résidence surveillée.
Une semaine d'actualité.
Et après notre voyage en Afrique, retour en France, ça vous a rappelé des souvenirs, Laurence, d'entendre parler de l'Afrique.
Oui, à l'époque où je travaillais pour RFI, oui, j'adorais partir là-bas.
Un continent que nous aimons évidemment beaucoup. On va donc continuer à parler du vote en France grâce à votre livre, L'isoloir des illusions en deux mots.
C'est
et
ça.
Des illusions en un mot aussi, ouais. D'ailleurs, Laurence. Donc parmi les personnes que vous avez rencontrées, journalistes ou pas, il y a Jean-François Kahn, célèbre Jean-François Kahn, qui lui dit carrément qu'au lieu de voter, il faut réinventer la politique. Est-ce que je l'ai bien compris ?
Oui, c'est ça. Alors, le problème, c'est qu'il a toujours pas trouvé. De toute façon, ça fait un petit bout de temps que
bon nombre
d'intellectuels et de journalistes politiques recherchent la fameuse troisième voie. Donc, lui, depuis très longtemps, il dit que ce n'est pas une affaire ni de gauche ni de droite. Il faut piquer les bonnes idées là où elles sont. Jean-François Kahn fait partie aussi de cette génération, puisque je me suis amusée dans cette traversée du siècle français, cette génération des enfants de la colère, des enfants qui ont vraiment façonné leur identité politique durant la guerre d'Algérie. Il y en a beaucoup, il y a Kahn, je pense à Guy Bedos, forcément, Cabu, Alain Krivine, qui était le porte-parole de la Ligue communiste révolutionnaire, Jacques Attali également. Et voilà, il y a différentes générations aussi, qui d'ailleurs, eux, considèrent l'utilité du vote. Et je repense à une petite phrase de l'écrivaine Régine Deforges. Je garde une pensée assez émue pour elle, parce que j'ai interviewé quelques jours avant qu'elle ne disparaisse. Et pour elle, qui était très branchée histoire, elle disait « Les accidents de l'histoire créent vraiment les salauds ou les héros. »
C'est tellement vrai.
Et c'est tellement vrai. Mmh. Et je pense que effectivement, selon que l'on ait eu 20 ans durant la guerre d'Algérie, durant l'occupation, on a une conscience politique plus vive. Et cette histoire de vote s'ensuit, quoi.
C'est quand même assez paradoxal. C'est-à-dire que c'est dans les périodes de crise, voire de guerre. Bon, la Deuxième Guerre mondiale, l'après-Deuxième Guerre mondiale, la guerre d'Algérie. Et c'est là qu'il y a un engagement pour le droit de vote.
Oui.
Hein, et c'est après, quand tout se passe bien, dans la paix et la concorde, plus ou moins, que ce droit de vote est, je ne dirais pas remis en question, mais quasiment.
Oui, ou semble peut-être un luxe. Un luxe dont on peut se servir ou pas. On n'est plus dans l'urgence de l'histoire. C'est ce que dit également l'écrivain Pascal Bruckner, qui utilise très peu cette carte d'électeur, mais en ayant conscience qu'on est peut-être effectivement des gros enfants gâtés de la démocratie.
C'est ce que nos auditeurs africains là, en ce moment.
Mais ils ont raison de le dire. Non, parce que
c'est quoi ces Français qui discutent de l'utilité de
c'est
voter
ça. Et quand on a même des débats à dire il faut rendre le vote obligatoire, c'est que ça semble quand même assez incroyable. Quand on voit nos aînés, c'est pas si loin, qu'ils se sont quand même battus pour obtenir, et les femmes pour obtenir ce droit de vote qui date de pas si longtemps.
Et Patrick Besson dit très clairement, l'écrivain Patrick Besson dit que pour lui, voter ce n'est pas du tout un devoir.
Non, lui, ce qu'il dérange un petit peu, c'est cette démocratie du secret. C'est-à-dire qu'il dit, c'est quand même bizarre d'aller se cacher derrière un isoloir pour aller voter, comme si on allait aux toilettes pour se cacher et se planquer. Et que finalement, au contraire, on devrait assumer nos convictions.
Il faut rappeler à nos auditeurs qui ne vivent pas en France qu'il est absolument interdit de prendre un bulletin de vote et d'aller voter directement, qu'il faut absolument passer par l'isoloir.
C'est ça. Ouais. Mais Patrick Besson le fait, et puis finalement, son bulletin tombe dans l'urne quand même malgré tout. Ouais. Non, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de mettre en perspective tous ces portraits, ces personnages. Donc l'aînée à 94 ans, c'est Benoît de Groult. La plus jeune à 30 ans, c'est Cindy Léonie, l'ancienne présidente de SOS Racisme. Et forcément, ça ouvre sur la génération d'aujourd'hui. Beaucoup d'aînés, ou même nous-mêmes, certains ont pensé derrière l'isoloir à De Gaulle, à Marx, à Kennedy, à des chefs de la nation. On appelait ça les pères de la nation à une époque donnée. Aujourd'hui, ces personnages-là, ils seront enseignés où ? Sur Wikipédia ? Ce seront des héros pour les jeunes qui nous suivront, ça j'en suis pas complètement convaincue. Et je pense que les jeunes de demain ne croient plus en la notion de chef, dans la notion d'autorité verticale, le chef, le patron, le père. On le dit souvent avec la révolution technologique, avec les nouveaux médias, ils sont dans une logique horizontale et plus verticale, de l'autorité verticale. Ils parlent des pères, P-A-I-R-S, et plus du père. On est dans un échange de partage ou autre. Donc il y a une démocratie certainement à réinventer, qui sera peut-être plus participative, citoyenne. Après, il faut mettre les mots.
Sans compter que certains disent dans votre livre qu'il ne suffit pas de voter dans une démocratie. Je crois que c'est Pascal Bruckner, par exemple, qui dit « Ah oui, on vote tous les 5 ans, mais entre c'est chaque ça. Vote, les citoyens n'ont pas la parole. »
C'est ça. C'est en fait une espèce de pause. Non, mais je pense qu'il y a surtout un désenchantement collectif par rapport à la politique communication, à la politique pipolisation et au bal des promesses. Des promesses, que ce soit à gauche ou à droite, et des chiffres qui ne suivent pas et qui est palpable chez les citoyens français, mais finalement chez nos élites aussi. C'est ça qui est intéressant. Pourtant, ce sont les mêmes qui viennent parler de politique, nous faire des commentaires de politique, les interviews eux-mêmes sur les plateaux télé. Mais quand on leur demande, au fait, et vous, C'est un énorme point d'interrogation.
C'est-à-dire qu'il faut réinventer aussi une sorte de culture politique ?
Je sais pas, une culture politique, non. Moi, je pense qu'il... Alors, il y a beaucoup de débats maintenant sur la notion de 6e République. Non, moi, je pense qu'il y a un vrai problème de personnel politique, de politique à ouvrir aux citoyens, aux faiseurs, aux actifs, aux vrais gens. Peut-être là, il y aura peut-être aussi un déclic. C'est ça, peut-être la génération d'après qui la bâtira.
Vous votez, vous, au fait, Laurence ?
Bien sûr.
Ouais, je peux vous poser la question. En tout cas, il n'y a aucune, ça c'est le moins qu'on puisse dire, aucune appétence pour le vote. Hein. En lisant votre livre...
Il y a des... Oui, il faut y regarder de près. Il y a beaucoup... Non, il y en a beaucoup qui votent, mais qui votent contre. Peu, bof. Mais
il n'y a pas d'enthousiasme.
Non, on sent... Mais parce qu'il n'y a peut-être plus aussi de sauveur. Mais est-ce que...
Est-ce qu'il a existé?
Est-ce que c'est bien d'être dans cette idée de l'homme suprême ou de la femme suprême?
Il en a eu, mais quelques-uns.
Oui, mais je pense que ça remonte à certaines générations. Et en même temps, c'est le paradoxe, c'est que on s'emballe à chaque fois. Les soirées électorales sont suivies. Les gens se retrouvent entre eux. Voilà, c'est comme dans un repas de famille. Il y a tonton, il y a papy, il y a mamie, il y a les enfants, il y a les petits qui s'ennuient, souvent les adultes, voilà.
Et personne n'est d'accord.
Alors surtout, faut pas parler religion, pas argent et politique, sinon tout le monde se chamaille. Mais au final, on aime bien parler politique et voilà, la passion est toujours là.
Faut juste sauter le pas et aller voter.
C'est ça.
Merci Laurence Garcia. Votre livre s'intitule L'isoloir des illusions. Il est publié chez Michalon. Une semaine d'actualité réalisée par Vanessa Rovansky. Rendez-vous demain avec le magazine Idée. Nos invités seront deux historiens du politique, justement, Jean-Noël Jeannonet et Grégoire Kaufmann. Avec eux, nous parlerons des grands textes de rebelles célèbres dans l'histoire de France. Demain dimanche à 17h10, heure de Paris. Il faudrait peut-être voter pour les rebelles.
Eh bien, vive les rebelles, voilà.
Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.